journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. Des dizaines de milliers de militants de gauche bien déterminés à ne rien lâcher face à Emmanuel Macron. Les rassemblements de la marée populaire hier à travers la France n'ont peut-être pas fait le plein, mais la contestation reste vive et tente d'avancer unie, nous dira Stéphane Robert. C'est où les Pyongyang mettent la pression sur Washington pour sauver leur processus de réconciliation face aux tergiversations de Donald Trump. Kim Jong-un et Moon Jae-in ont repris la main hier au cours d'une poignée de main surprise. Une nouvelle société qui émerge en Irlande, c'est le sentiment des pro-avortements, largement victorieux après le référendum de vendredi. Reportage à Dublin dans ce journal, où nous irons également au Brésil, où la grève des conducteurs routiers paralyse l'économie. Le président Michel Temer fait appel à l'armée. À promettre des marées populaires dans les rues de France, la gauche syndicale, politique et associative s'exposait forcément à des critiques sur l'ampleur de la mobilisation hier. Elles n'ont pas manqué, ces critiques. Édouard Philippe, par exemple, moque ce matin dans le journal du dimanche le faible coefficient de cette marée-là. 31 700 manifestants hier à Paris, dans un cortège bon enfant et hétéroclite auquel s'est mêlé Stéphane Robert.
Du côté syndical, on a pu voir beaucoup de drapeaux de la CGT et les cheminots étaient bien présents dans le cortège parisien.
On a besoin de votre soutien parce que le combat, il est juste.
Nous, on ira jusqu'au bout. Voilà, ça fait deux mois. On n'a pas fait deux mois pour baisser notre froc, comme on dit. Et nous, ce qu'on veut, c'est le retrait pur et simple de ce projet. On n'est pas là pour négocier.
Du côté des formations politiques, de nombreuses banderoles arboraient les couleurs de la France insoumise. Mais les écologistes étaient là également, avec la sénatrice Esther Benbassa.
Ah ben oui, on est là parce que nous sommes pour une république écologique quand même. Parce que M. Hulot a été happé par ce gouvernement et il n'a pas de marge de manœuvre.
Les communistes aussi étaient bien présents et bien décidés à ne pas s'effacer derrière les insoumis de Jean-Luc Mélenchon.
La réussite de la journée d'aujourd'hui montre qu'elle réussit parce qu'on ne demande à personne de se ranger derrière tel ou tel, ni les communistes, ni la France insoumise, ni tel autre. Voilà, je pense que ceux qui auraient la tentation de penser qu'à eux tout seuls, ils vont être le rassemblement à eux tout seuls, ça, c'est voué à l'échec.
Tout ce petit monde était là au nom d'une seule et même protestation.
Pour que Macron, il arrête, quoi.
On est tous dans la rue.
Mais ce message-là était porté essentiellement par des militants. Il y avait beaucoup de fanions et de logos hier dans les rangs des manifestants. Et la population n'a, semble-t-il, pas vraiment répondu à l'appel des organisations.
Stéphane Robert, le ministère de l'Intérieur a compté 93 315 manifestants pour toute la France. Hier, ils étaient 250 000 selon la CGT. Et puis côté CFDT, à lire dans le journal du dimanche ce matin, une interview de Laurent Berger qui dit vouloir sortir au plus vite de la grève à la SNCF. Le secrétaire général donc de la CFDT pour qui les deux semaines qui s'ouvrent sont décisives. 9h de débat sur les menus des cantines publiques. C'était hier à l'Assemblée nationale. Les députés ont finalement adopté l'article 11 du projet de loi agriculture et alimentation, avec donc cette obligation pour la restauration collective d'utiliser au moins 50% de produits bio ou bien produits intégrant la préservation de l'environnement. L'idée d'introduire plusieurs jours par semaine des menus végétariens, par contre, a été rejetée. Du coup de froid au grand réchauffement, le thermomètre diplomatique s'affole entre Washington et Pyongyang. Donald Trump, qui jeudi annulait sa rencontre du 12 juin avec Kim Jong-un, a redit finalement hier soir que ce sommet de Singapour devrait bien avoir lieu. Il faut dire qu'entre-temps, hier, Kim avait créé la surprise en se rendant sur la frontière entre les deux Corées pour s'y entretenir très chaleureusement avec le président du Sud, Moon Jae-in. Des précisions depuis Séoul avec Frédéric Ojardias.
Les deux Corées ont réussi leur coup avec leur tête-à-tête impromptu. Kim Jong-un et Moon Jae-in ont remis la diplomatie sur les rails et le sommet avec Donald Trump à Singapour semble être de nouveau à l'ordre du jour. Je pense que le sommet du 12 juin sera un succès, déclare même ce matin le président sud-coréen. Kim Jong-un a une fois de plus exprimé sa ferme intention de dénucléariser complètement la péninsule, assure Moon Jae-in, qui ajoute que le leader nord-coréen doute de la volonté de Washington de mettre fin à sa politique hostile et d'offrir des garanties de sécurité à son régime. Washington et Pyongyang doivent se rencontrer pour confirmer leurs véritables intentions sur la dénucléarisation, a conclu Moon. La rencontre d'hier entre les deux Corées a été organisée à l'initiative de Kim Jong-un, qui voulait sauver son sommet avec Trump. Moon Jae-in a immédiatement accepté, ce qui est exceptionnel. C'est la première fois qu'un sommet intercoréen est mis sur pied en 24 heures. Une rapidité qui montre que Séoul entend garder l'initiative et forcer son allié américain à poursuivre le processus de dialogue.
Frédérico Jardias, RFI pour France Culture. Une société en pleine mutation, c'est l'Irlande qui a donc approuvé à 66% la libéralisation de l'avortement. La fin de 35 années durant lesquelles la quasi-interdiction de l'IVG était inscrite dans la constitution irlandaise. C'est historique dans un pays que l'on disait toujours très marqué par les valeurs traditionnelles catholiques. Et c'est un reportage à Dublin signé Julien Lagache.
Stacia Clancy est en larmes à l'annonce des résultats officiels. Elle embrasse sa fille Siobhan, avec qui elle tenait à assister à ce moment historique qui doit amorcer la suite, selon elle. C'est un tout nouveau pays. Ce sera un nouveau pays quand la nouvelle législation sera votée. Et avec une telle victoire, le gouvernement doit impérativement appliquer tel quel son projet de loi. Le texte de la réforme prévoit l'avortement sans condition jusqu'à 12 semaines et au-delà pour des cas exceptionnels. Mais il faut voir plus global, affirme Siobhan, sa fille de 37 ans. La prochaine étape, c'est la décriminalisation totale de l'IVG, dit-elle, avec un accès plus complet à tout type de soins, ce qui veut dire améliorer tout notre système social et offrir une meilleure éducation sexuelle à tous les âges. Dans la foule, Sarah, originaire de Belfast, est venue célébrer le résultat du référendum et cette Nord-Irlandaise espère bien voir un jour la même chose dans la province britannique. Il n'y a maintenant plus que deux pays en Europe qui n'offrent pas l'accès à l'avortement, Malte et l'Irlande du Nord. Et chez nous, l'IVG, c'est la prison à vie, précise-t-elle. On veut des droits, mais comme on ne nous en donne pas, on va devoir aller les chercher nous-mêmes. Plusieurs leaders politiques nord-irlandais ont d'ailleurs appelé, dans la foulée du référendum en République d'Irlande, à rapidement plancher sur une réforme similaire.
Un sujet qui doit être tranché dans les prochains mois par la Cour suprême britannique à Londres. Des décibels pour couvrir les discours de haine à Berlin, porte de Brandebourg. Des milliers de militants antifascistes ont prévu de se rassembler sur de la musique techno. Cet après-midi, il s'agit de s'opposer à une manifestation de l'AFD, le parti d'extrême droite qui, depuis son entrée au Bundestag au mois de septembre, semble peiner à rassembler les foules. On attend 5000 personnes côté AFD et beaucoup plus parmi ceux qui viendront s'opposer à ce rassemblement. En Colombie, ce dimanche, c'est le premier tour d'une élection présidentielle particulière. Il s'agit de trouver un successeur à Juan Manuel Santos au pouvoir depuis 2010. Mais c'est surtout la première présidentielle depuis la paix conclue avec les FARC il y a un an et demi. Le favori du scrutin, le candidat de droite, Iván Duque, promet de revenir sur cet accord défendu par tous ses concurrents. Un président à nouveau en difficulté au Brésil, c'est Michel Temer. Il en appelle à l'armée face à la grève dure des chauffeurs routiers qui paralyse la première économie sud-américaine. Les camionneurs maintiennent leur mouvement contre la hausse des prix des carburants. Et ce, malgré ces interventions de soldats qui ont déjà fait lever par la force la moitié des barrages routiers à travers le Brésil. Correspondance à Rio, Dan Vigna.
C'est avec stupeur que le Brésil découvre depuis une semaine sa grande dépendance au transport routier. Il n'a fallu que 6 jours de grève des camionneurs pour que l'essence disparaisse des stations-service de Rio, São Paulo et Brasilia, que les vols soient annulés dans 13 aéroports à cause du manque de kérosène et que la moitié des autobus en ville soient contraints de rester au garage. Les routiers ont bien obtenu vendredi une réduction du prix du diesel, mais au moins 2 syndicats de la catégorie ont jugé la mesure insuffisante. L'accord signé avec le gouvernement n'a pas été appliqué sur le terrain et le président a donc opté pour la manière forte. Envoi des forces armées pour débloquer les routes, réquisition des camions-citernes et fortes amendes pour les entreprises de transport qui poursuivent la grève. Hier soir, de nombreuses routes étaient toujours bloquées et les camions ne roulaient pas pour autant sur celles qui ont bien été libérées. La population appuie le mouvement des routiers qui, eux, veulent poursuivre la grève et obtenir un meilleur accord. La politique du bâton aura peut-être raison de leur détermination. Reste que leur mouvement a fragilisé un peu plus le gouvernement de Michel Temer, déjà très impopulaire, et qui a privatisé en 2 ans plusieurs secteurs clés de Petrobras, l'entreprise pétrolière détenue à moitié par l'État brésilien. Depuis la vente de son réseau de distribution à des majors étrangères, le gouvernement ne peut plus, comme avant, contrôler les prix à la pompe.
Anne Vigna, une information de dernière minute. On apprend la mort de 2 Palestiniens tués ce matin par une frappe de l'armée israélienne qui visait un poste d'observation du groupe radical. radical djihad islamique dans le sud de la bande de Gaza. Annonce faite par le ministère de la Santé de Gaza. La carte Météo France ce dimanche prévoit des orages localement porteurs de grêle dès le début de l'après-midi sur une bande qui ira du nord de la France à la vallée du Rhône. Le temps s'annonce très instable partout ailleurs avec des températures encore au-dessus de 25 degrés sur la moitié ouest. Elles se rafraîchissent, ces températures, de 17 à 23 degrés sur l'ouest.